Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et vous écoutez le débrief du 5e et dernier jour du Festival International des Jeux de Cannes réalisé par Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée par les 1, 2, 3, 4, 5 derniers survivants à ce festival. Les yeux sont tout petits, les voix sont un petit peu cassées. J'espère que vous les reconnaîtrez. Alors j'ai Kurtz en face de moi. Salut Kurtz.
Salut Elodie, salut tout le monde.
Drew.
Bonjour à tous, bonjour Elodie.
Caduce.
Salut tout le monde.
Lana.
Hello.
Et Cyrus.
Hey, yeah.
Ça va, vous tenez? Vous êtes encore prêts?
Oui.
Vous avez encore un petit peu d'énergie pour ce débrief?
Easy.
Un tout petit peu.
Oh là là, c'était, je sens que il va falloir que je les porte. Il va falloir que j'aille les mettre au lit à la fin de l'émission. Si des gens peuvent amener des brouettes pour m'aider, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous allons commencer ce débrief par vous parler des interviews. On a fait 3 dernières interviews aujourd'hui.
Eh oui, on terminait la salve d'interviews par 3 interviews ce matin. On a commencé par Armelle Favry, donc qui est chercheuse à l'INRAE. On vous a déjà parlé du jeu il y a quelques jours, dans quelques débriefs de Stan Invasion. Donc elle est venue nous parler un petit peu de tout ça.
On a ensuite reçu la Cultimatech de Guyane avec Jérémy Grac et Cyril Moulard, qui sont venus nous parler des actions qu'ils mènent en Guyane et des difficultés qu'ils peuvent y rencontrer.
Et nous avons terminé cette série d'interviews par Giordano d'Intrafin, avec qui on a parlé de jeux experts et de localisation vers la France.
Très bien, ça s'annonce sympa toutes ces interviews, on a hâte de les écouter. Et ensuite, on va continuer sur les impressions de la journée. Alors moi je trouve que il y a plus en plus de gens déguisés, costumés sur le festival. Ce matin je suis arrivée, j'ai vu 2 cow-boys, je me suis dit, oh bah tiens, c'est marrant. Et vraiment avec la petite cravate en ficelle et tout, enfin ils étaient magnifiques.
Ouais, mais le cheval c'était trop.
Hein. On a des cowboys en face de chez nous sur Playit.
Oui aussi. Non pas Playit, ils sont sur Speedback enfant les cowboys.
Ouais.
De temps en temps ils tournent sur les différents stands. Et oui voilà, je trouve que c'est rigolo. Il y a de plus en plus de personnages, il y a des enfants aussi costumés. Je trouve ça très chouette et ça amène beaucoup de vie au festoche. Ah oh, oui, il y avait le chat. Elle faisait miaou. Elle faisait miaou, miaou, miaou dans les allées. Lana vient de me montrer la photo d'un cosplay de chat, et c'est vrai qu'elle était superbe, cette dame. Donc on vous mettra la photo sur le billet, une photo un peu en mode paparazzi, hein, vous verrez. Vous pourrez pas trop copier le costume de cette dame.
Dans le même genre, dans la suite de ça, avec Cyrus, à l'extérieur, on a vu, en allant faire un tour dehors, une course automobile organisée par des gens qui couraient à pied, organisée par l'équipe de HIT.
Ouais, il y avait un HIT GN en fait.
Voilà.
Hein. Et il y avait l'extension tunnel qui était en place. Il y avait des gens qui faisaient le tunnel, enfin, qui faisaient l'arche là.
Non mais la totale avec les combinaisons, les casques, ouais. Le drapeau à damier, la totale, ouais.
Et ils roulaient pour de vrai, hein. Enfin, ils faisaient les vitesses et tout, enfin en marchant, en courant quoi. Non, c'était très drôle. Ah, c'est de l'animation un peu comme Aeson, c'est quand ils passaient avec le train ou je sais plus quoi là, un peu pas dans le même esprit quoi.
Pour les aventuriers du Rail Legacy. Ouais, ouais.
Mais toujours pas de GN de Sinkerswim, déçu quoi.
Et ouais, genre. Pourtant il y avait ce qu'il fallait, il y a la mer à côté quand même.
Et ben prépare-toi Drew pour l'année prochaine. Tu commences et on te suit.
Ouh.
c'est toi qui vas avoir la parole Drew par rapport au tournoi d'échecs.
Oui, je voulais parler un petit peu au-delà du jeu de société, parce qu'on parle, nous, beaucoup de jeux de société dans ces débriefs et dans ces interviews. Mais il se passe beaucoup de choses autour, puisque c'est la réunion de tous les joueurs, on va dire, ce FIGE. Bah, on parle aussi très brièvement du jeu de rôle, qui a lieu tout en haut de la rotonde. Mais il faut savoir que dans tous les salons du palais, il y a aussi des tournois. Et que le FIGE, c'est aussi l'occasion de sélectifs ou de grandes finales. De belote contrée, d'échecs, et nous on s'est perdu un petit peu dans les couloirs hier soir en cherchant un salon pro, et on est tombé sur le salon des échecs. Donc je suis entré par curiosité, c'est assez libre d'accès, et on rentre là-dedans, c'est feutré, il y a pas un bruit, il y a peut-être 300 personnes en train de jouer, et ça fait un contraste avec le salon qu'on connaît nous en bas. et on a presque honte de rouvrir la porte pour sortir et de laisser rentrer le bruit, quoi. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, pour le coup, on peut le dire. Et voilà, le FIJ, ce n'est pas que les jeux de société, c'est vraiment tout plein d'activités qui gravitent autour.
Et tu avais aussi une petite anecdote à nous faire part.
Ah oui, effectivement, puisque quand on était, donc ça se passe dans les étages, on était en haut, on avait une belle vue plongeante sur l'extérieur, et notamment sur le labyrinthe qu'ils ont mis en place sur la terrasse, le fameux labyrinthe avec une thématique un peu Alice au Pays des Merveilles. Et autant on était passé les premiers jours tout debout, il n'y avait personne, autant là il devait être 5h du soir, et il y avait au moins une queue de 20 mètres pour entrer dans le labyrinthe, et le labyrinthe était complet. Donc on imagine un petit peu le temps d'attente pour faire le labyrinthe. C'était assez fou quand même, hein, parce que... qu'il y ait autant de demandes, et il faisait pas spécialement, enfin il faisait beau, mais il y avait beaucoup de vent, les conditions étaient pas top pour rester dehors, et quand même les gens s'accrochaient pour le faire. Donc une vraie réussite en tout cas, plébiscité du public, ce labyrinthe.
Après je pense, une fois que t'es dans le labyrinthe, t'es à l'abri du vent.
Peut-être.
Donc c'est peut-être aussi pour ça que les gens ils se ruaient là-bas dedans, pour être à l'abri du vent, pique-niquer, ça se trouve il y en avait deux trois qui avaient pris leur pique-nique, c'est pour ça qu'il y avait la...
Mais voilà, mais comme ce labyrinthe est aussi à côté des tentes, des tonnes trucks, des tentes food, on les a vus plusieurs fois, et les midis c'était tout le temps plein aussi, hein. C'est vraiment très apprécié, et même les gens, vous voyez les gens sur la terrasse s'allonger dans l'herbe qu'ils ont mise à côté, c'était un coin très reposant et très très plébiscité.
Ah ouais, non, c'était vraiment agréable ce coin tout chill là, c'était une très bonne idée. Et Lana, tu voulais nous parler des annonces.
Ouais, on a eu des annonces festival. Alors, on en a eu moins que d'habitude. Ça, c'était super pour nos interviews. En revanche, je pense qu'il a manqué d'annonces par rapport au stand. On a discuté avec des gens qui tenaient des stands et qui disaient, ben, le premier jour, on savait pas à quelle heure ça fermait. On a entendu sur une annonce que c'était 20h, mais nous, on s'attendait pas du tout à ça. Et puis, hier, on croyait que c'était 19h, mais à 19h, toujours pas d'annonce. Il y avait tout le monde. 19h04, une annonce, le salon va fermer dans quelques minutes. Ah oui, bah, c'était bien ça, c'était bien 19h. Et une annonce surprise, cet après-midi, qui était très rigolote. On cherchait un petit, ouais, on perd des petits, hein, des fois. Et là, on cherchait un petit Fred Henry pour boire un café.
Est-ce que les gens ont la ref?
Bah, chercher sur BGG, Trick Track, qui est Fred Henry. Cyrus, tu voulais nous parler de la réussite de cette édition? Pour une fois, tu ne voulais pas râler?
Bah, je voulais qu'on fasse un point sur petit bilan général en fait. Pour moi, c'est une édition vraiment réussie, particulièrement plus que les autres années. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées. Déjà, bah, les espaces extérieurs se sont améliorés. Les food trucks ont été effectivement dispatchés, donc c'est plus aéré. On peut trouver à manger à différents endroits. Il n'y a pas ce sentiment de saturation de certains endroits. Dans cette veine, il n'y a pas de saturation. On n'a pas eu de problème de jauge cette année, enfin, sauf erreur de ma part. On n'a pas des gens qui se sont retrouvés bloqués à l'étage pour ne plus pouvoir redescendre. C'est aussi un succès vis-à-vis de l'Asdor, à mon sens, parce que on a vu vraiment des files d'attente devant les jeux qui étaient sélectionnés à l'Asdor, en particulier, enfin, surtout le tout public, hein. Les autres, mais clairement, pour Odin, il y avait la queue, pour Captain Flip, il y avait la queue, et pour Far Crown, il y avait également la queue. Alors, il y a quelques autres jeux sur lesquels il y avait la queue, mais bon, particulièrement ces trois-là, quoi. Et puis, bah après, peut-être un peu plus anecdotique, hein, parce que là, ça nous concerne nous en tant qu'exposants, mais on n'a pas eu de problème pour rentrer cette année. On n'avait pas besoin d'arriver à 8h30 pour être sûr d'être là à 9h. Ils ont fluidifié les entrées, et ça aussi, c'est un plus. Alors, voilà, c'est quelques petites choses que je cite comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment des améliorations qui ont été faites sur beaucoup de volets. On sait que l'organisation du FIJ est à l'écoute, ils attendent justement d'avoir les retours, etc., et qu'ils essaient au maximum de prendre en compte les choses. Bah, là, ça se concrétise un peu avec ces espaces extérieurs encore mieux organisés, je pense. Voilà, donc félicitations à eux.
On les félicite, mais on tient aussi à remercier donc toute l'équipe organisatrice du festival cette année qui nous a permis d'être présents, de vous offrir ces débriefings ainsi que toutes les interviews que vous pourrez écouter au fil des semaines à venir.
Ouais, merci, un grand merci à eux. Puis encore à vous aussi, auditeurs, auditrices, donateurs, donatrices, évidemment. Et maintenant, on va arriver au moment que vous attendez toutes et tous, c'est-à-dire le débrief des jeux auxquels nous avons joué. Non, vous n'allez pas dire ça?
Moi, je crois que c'était l'apéro, moi, le moment qu'on attendait tous.
Alors, nous, on attend ça. Ceux qui nous écoutent, pas forcément, surtout s'ils nous écoutent de bon matin. On n'incite pas à l'alcoolisation des gens des 8h du mat ou des 6h. Non, mais voyons, monsieur.
Pas forcément alcoolisé, l'apéro, hein.
Alors, nous allons commencer par Lana qui va nous parler de Compile Main 1.
Oui, ne pas dire Compile Main 1, ça ne marche pas. Ce jeu Compile, c'est un jeu qu'on avait repéré à Essen et on n'avait pas eu la possibilité d'y jouer. Donc c'est quelque chose qu'on avait toujours dans notre liste et qu'on ne voulait pas louper à Cannes, hein, puisqu'on l'a retrouvé. Il a été localisé chez Geek Attitude Game et il va arriver dans une version toujours aussi jolie avec de magnifiques cartes foil. Et pour le coup, là, j'ai été très sensible à l'esthétique de ces cartes. C'est un jeu d'affrontement avec des cartes sur trois lignes de combat, strictement à deux. Et l'objectif va être de finir en premier à réussir 10 points dans chacune de ces lignes. Chaque joueuse a 3 decks de cartes différents, donc ça fait 6 decks différents au total autour de la table, qui vont avoir des effets différents. Chaque joueuse donc mélange ses decks, et il va pouvoir jouer une carte, et va pouvoir jouer. Ces cartes sont posées soit face cachée, dans n'importe quelle ligne, pour 2 points, soit face visible, pour ses effets. Et là, les effets peuvent être très très forts, hyper interactif. Par exemple, on va complètement changer les objectifs de place de son adversaire ou on va lui faire retourner des cartes. Bon, bien sûr, si on met une carte de forte valeur, c'est nous-mêmes qui pouvons subir l'action. Ça m'a un peu fait penser à Starfighter, où on interagit pareil dans des lignes ou des colonnes. C'est extrêmement tendu. Et le gros twist du jeu, c'est qu'on ne valide sa ligne à 10 points qu'au début de son tour. Donc on peut être à 10 points, mais l'autre va avoir le temps de réagir.
Bien tout nous péter.
Exactement. Du coup, enfin, ça fait vraiment le sel du jeu et ça marche très bien. Est-ce que dans ma main, à ce moment-là, j'ai de quoi contrer son attaque ? Est-ce que moi j'en profite ? Tant pis, il valide une ligne, mais moi j'en profite pour en valider une autre. Il y a un vrai tempo à trouver, il y a forcément de la pioche de cartes. Quand est-ce que je recharge ma main ? Quand est-ce que je me permets d'aller rechercher des cartes ? Ça marche très très bien. Ça sort fin août et ça clairement nous ça rejoindra la Ludo. Très très joli et bon jeu.
Comme quoi, Cannes is the new Essen.
Eh ben écoute, cette année, ouais.
Enfin, pour Lana Hydro.
Ouais. Par rapport à Bestioles en guerre, ça ressemble quand même pas mal, non?
En fait, ce qu'il y a, c'est que on est dans la peau d'un informaticien. Ils ont tourné le jeu un peu informatique. Et il y a 12 thèmes et qui sont chacun accompagnés de leur deck de cartes propres. Et au début, on va en choisir 6 et chacun a 3 thèmes devant lui, en fait. Et va prendre les 3 decks correspondants. Donc en fait, moi, je vais peut-être prendre le deck qui permet de piocher beaucoup, mais je vais être en face d'un deck qui permet de beaucoup défausser peut-être. Et le but, c'est que moi, je dois compiler cette ligne-là à 10 avant que l'autre ait compilé à 10, parce que dès le premier qui compile, il fait table rase sur la totalité, donc aussi bien chez lui que chez l'adversaire en face. Donc c'est en ça où on se bat avec des decks différents, des activations différentes, et on découvre les cartes de l'autre, quoi. Et c'est là où ça fait mal, quoi. Ça...
J'ai pas Bestioles de guerre en tête. C'est difficile pour moi de répondre, désolé.
Ouais, mais Bestioles en guerre, en fait, c'est une carte commune au milieu.
Il y a plus de variabilité, du coup, de ouais. Ce que je comprends.
Ouais, parce
que... vraiment en affrontement d'un style de deck versus un autre style de deck.
Ouais,
absolument. Trois fois, quoi.
Surtout que sur les cartes, elles sont divisées en 3. T'as l'effet à la pause. Elles peuvent avoir un effet de début ou de fin de tour, donc il sera constant. Elles vont avoir des effets aussi si jamais tu vas les recouvrir une par une, hein, quand tu joues, et quand tu vas enlever celle du dessus, que tu révèles une qui était déjà posée, tu refais son effet. Donc il y a comme ça des effets de combo qui sont super intéressants.
En tout cas, ça a l'air mieux que Star Wars Rebels.
Oui, tout à fait.
Et sans aucun doute.
Tout est mieux que Star Wars Rebels.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie interaction, parce que là, tu joues pas que chez toi. Quand tu fais un effet retourner une carte, tu peux la retourner chez toi, mais tu peux aller chercher aussi chez l'autre. Et là, c'est vraiment violent.
Non, mais effectivement, ça, c'est des trucs qui m'ont fait penser à Bestioles en guerre, des espèces comme ça. Mais ouais, ça a l'air d'être vraiment un gros cran dessus.
Oui, puis c'est foil. C'est forcément mieux, c'est foil.
Toujours mieux quand c'est foil. Quand ça brille, c'est toujours mieux.
Compile Man One, c'est un jeu de Michael Young, illustré par Nolan Nasser et Alan Panatal. Un jeu pour deux uniquement, des parties de 20-30 minutes. C'est à peu près ce qu'on a dû mettre. Et ça sort fin août chez Geek Attitude Game.
Ok, et ben Drew, t'avais rebondi et tu vas garder la parole parce que t'es allé faire joujou avec des jouets, c'est ça ?
Oui, on a été joué, on a fait joujou, des petits joujou qui se bataillent entre eux. Et je pense que cette chronique va durer peut-être plus longtemps que la partie. Parce que c'est un jeu très rapide, il est donné pour 15 minutes, mais je crois qu'on a fait moins que ça. Quand on s'est assis, elle nous a dit, vous connaissez Clash Royale ? Eh ben, c'est le même jeu, en jeu de société. Et effectivement, ça se présente un peu pareil. Alors, Il y a plusieurs cartes dans la boîte. Ils nous avaient vraiment mis une carte qui ressemble très pour très à Clash Royale. On est comme ça en opposition.
Carte au sens plateau. Hein.
Oui, carte au sens plateau, effectivement. Donc on est installé comme ça, c'est du 1 contre 1. On a chacun devant soi un petit chevalet sur lequel on va mettre des tuiles. Et on est donc face à ce plateau avec des emplacements. Et on a notre château devant nous et l'adversaire a le château en face. Et le but, c'est de faire une ligne continue de nos tuiles qui vont de notre château au château d'en face. Dès qu'on arrive à placer le dernier jeton sur le château de l'adversaire, la partie se termine, on a gagné. Mais pour ça, il ne faut pas que la ligne ait été interrompue. Il faut vraiment avoir cette connexion entre les deux châteaux. Et donc, on a comme ça toute une pile de tuiles à effet que l'on va piocher en action principale. On peut piocher deux tuiles ou alors on va en jouer une. Et comme ça, on a donc des tuiles qui permettent de rejouer, de repiocher. Et la petite subtilité, c'est que ces tuiles ont en plus une valeur de 1 à 7. Et quand je m'installe sur un chemin, je vais mettre par exemple un 2, mon adversaire peut très bien venir m'écraser avec une valeur supérieure et donc casser ma ligne et voir même lui prolonger sa ligne comme ça. Donc il y a toute cette petite interaction. Alors il y a en plus une notion de victoire avec des étoiles qu'on peut récupérer en les encerclant sur le plateau, qui va comme ça permettre une victoire à l'usure, quoi. Si ça dure un peu, je peux essayer d'aller choper les étoiles et puis de gagner par cette collection. Nous, clairement, ça a été de l'attaque directe. On a toujours été en face. Très plaisant, très très simple d'utilisation, très, comment dire, j'allais dire jouissif.
C'est assez immédiat, en fait.
Ouais, c'est très immédiat. Ça s'explique en 2 minutes. Ça se joue en 5 minutes. Et on a tout de suite envie d'en refaire une. Nous, clairement,
on l'a fait.
Voilà. Et on a terminé comme ça en 2 minutes. Elle nous a dit, faudra attendre que ça sorte pour faire la revanche. Et puis elle est partie expliquer. Ah non, on en a remis une, c'est tout. Et puis voilà, on a refait 2 minutes. Hein.
Mais Drew, qu'est-ce qui se passe si un joueur joue la plus grosse valeur? On peut pas le battre?
Ah, mais si, voyons. Parce que il y a le petit canard magique.
Quoi?
Qui n'a pas de valeur. Le canard magique, il gagne forcément. Mais comme il n'a pas de valeur dessus, il perd forcément s'il se fait écraser, même par un. Voilà.
Ça pourrait faire quoi comme bruit, un canard écrasé?
Ouais.
Ouais, c'était à peu près à ça que je m'entendais.
Mais effectivement, toute tuile écrasée n'est pas perdue, parce qu'on peut, par des effets d'autres tuiles, retirer les tuiles qui sont déjà disposées sur le plateau, et du coup recréer le chemin, et du coup le coin redevient coin.
Ouais, il y a plein de subtilités dans le jeu, c'est en même temps c'est immédiat, t'as des dilemmes. Enfin, nous on était en mode, on a joué avec Kurt, et lui il était en mode je vais t'avoir par les points. Moi j'étais en mode non mais moi je vais t'avoir, je vais te prendre ton château. Et il y a eu un retournement de situation, il était à 6 points sur 7 et bim, je lui ai fait un double effet. C'était vraiment excellent.
Il faut pas traîner non plus, parce que si on se retrouve à ne plus avoir de tuiles, donc de jouets dans sa collection de jouets, c'est perdu aussi.
Ah, c'est ça, il y a des moments où tu pousses, puis il y a un moment, merde, j'ai plus de tuiles, là, faut que je refile.
Et le jeu propose 8 plateaux de jeu avec chacun des configurations différentes, des chemins différents, des dispositions d'étoiles différentes, et chaque plateau propose un petit pouvoir différent aussi en fonction des placements. Donc quand même une vraie rejouabilité, une vraie renouvelabilité.
Ouais, et puis en plus cette notion de j'essaye de tomber en décalage par rapport à mon adversaire, j'essaye de l'obliger à aller piocher, comme ça me fait, je joue 2 tours d'affilée et je peux comme ça peut-être rusher un peu plus. Il y a malgré tout une vraie profondeur sur ce petit jeu, parce qu'il est pas très grand, mais...
Et même, tu vois, j'ai été surpris, même le début dans des jeux comme ça, tu dis, c'est hyper scripté. Moi, des 2 premiers tours, j'ai pioché. En fait, j'ai dit, mais non, mais c'est bon, je vais rien faire avec ce que j'ai là, il faut que je joue autre chose, piocher. Jamais je m'imaginerais dans un jeu standard, vachement bien designé, hyper léché, tu vois, faire des coups comme ça, tu te dis, tu vas te planter. Bah, je sais pas, ça a marché. Ah non, je...
Donc c'est Toy Battle de Paolo Mori et Alessandro Zucchini, illustré par Paul Maffaillon, et ça sortira chez Repos Prod en mai.
Ok, oh, donc après les canards écrasés, nous avons pu, Caducet a pu acheter une noix à la perle dans Boursicocotte.
Oui, la fameuse oie à la perle qui est aussi accompagnée du munch, comment on avait
du
dit
monster
du
munch.
Monster munch. Vous allez comprendre. J'ai pu jouer à l'art de la boursicocotte. C'est un jeu que vous allez peut-être reconnaître puisqu'il s'agit d'une réédition de Your Bluffing qui date de 1985 et que vous connaissez sous le nom de boursicocotte. Donc ce jeu a été revisité au niveau des illustrations, mais il s'agit toujours d'un jeu d'enchères et de bluff. Sauf erreur de ma part, il y a quelques petites modifications par rapport à la version originale. original. Vous viendrez me contredire en commentaire si je fais des erreurs. Là, en l'occurrence, sur l'art de la boursicocotte, on va devoir essayer de reconstituer des collections de cartes. Chaque collection est constituée de 3 cartes et il existe 10 collections différentes. Comment on va pouvoir acquérir ces cartes ? On va le faire par des phases, la plupart du temps, d'enchères. On va être chacun notre tour, avoir le rôle de commissaire priseur et mettre 2 tableaux aux enchères. Et les joueuses autour de la table vont devoir se renvoyer le ping-pong des enchères en ayant la possibilité de bluffer. Le tout se fait avec un argent qui circule en circuit fermé. On a tous le même petit pactole de départ et les échanges vont se faire entre nous. Donc on arrive quand même un petit peu à anticiper pour savoir qui a quoi comme possibilité financière. Et en dehors de l'action d'enchères, on peut également faire une action de marchandage, c'est-à-dire cibler directement une de nos adversaires parce que l'une de ces cartes nous intéresse fortement pour compléter l'une de nos collections. Et on va essayer de faire une offre à laquelle vous pourrez faire une contre-offre. Et là, on va révéler les 2 offres mises en gage et la plus haute remportera la carte. Donc, il y a quand même un petit tiraillement là dans ce jeu d'enchères et de marchandage. On n'était peut-être pas dans la meilleure des configurations. On était 3 joueuses. La phase d'enchères nous a semblé plutôt chouette. On a un peu délaissé la phase de marchandage qu'on aurait pu peut-être essayer de mettre en place au fil de la partie. Et on a terminé cette partie avec quasiment que du marchandage et ça nous a semblé très long. On a presque abdiqué en fait en disant bah tiens tu fais ta carte, vas-y prends-la, j'en peux plus. Alors qu'en fait peut-être que le jeu est organisé pour que ce soit un petit peu plus lissé sur l'ensemble de la partie. Les collections, alors pourquoi on ferait tout ça ? En fait ces collections elles ont des valeurs différentes et vous allez à la fin de votre partie pouvoir compter les points de ces collections. Et elles seront valorisées par le nombre de collections que vous possédez, qui sera un multiplicateur. Donc, même les collections en fait de faible valeur vont être intéressantes parce que ça vous fera toujours une collection multiplicateur en plus. Le système est plutôt intéressant. L'aspect visuel est assez sympa puisqu'on joue avec des tableaux connus revisités. C'est pour ça qu'on vous parlait de loi à la perle. C'est parce qu'en fait c'est la jeune fille à la perle qui est revisitée avec une oie. Donc ils ont quand même gardé l'idée des animaux qu'il y avait dans Boursicocotte, mais avec un aspect art. Et il me semble que dans l'édition originale, on ne mettait aux enchères qu'une seule carte, alors que là il y en a bien 2 qu'on récupère quand on gagne l'enchère. Quoi qu'il en soit, il faudra peut-être que je le réessaie à plus de joueuses pour m'en faire un avis un peu plus précis. J'ai eu l'impression d'avoir un peu envie de mettre fin à la partie de façon un peu trop précipitée par rapport à ce qui était offert. À voir. Voilà. J'ai un avis qui reste quand même plutôt positif parce qu'on s'est marré sur les enchères. Mais voilà, je crois qu'Élodie, tu voulais, t'avais précisé quelque chose par rapport à l'aspect des cartes, toi, que t'avais pas trouvé logique.
Alors, je suis complètement d'accord sur l'enchère, d'autant plus qu'on a un vrai petit maillet en bois, donc on va vraiment aller taper. Et ça, quand à notre tour, on est commissaire priseuse, c'est vraiment rigolo.
Au niveau de la mise en scène, c'est
vraiment jouer au commissaire priseur, et ça, c'est drôle. En revanche, c'est vrai qu'on va faire des enchères et faire des collections de mêmes tableaux. Donc, je trouve que thématiquement, c'est absolument pas logique. On va pas avoir un tableau et ses 2 copies. C'est complète. Enfin, voilà, qui ferait ça ? Qui irait accrocher 3 fois le même tableau sur son mur ?
Autant que des animaux de la ferme, ça, c'était logique, ça faisait sens, oui.
Mais là, ça fait pas sens. Donc, on aurait pu avoir le même style. Par exemple, un type Munch, mais avec le cri, donc c'est le cri qui est repris. Avoir un chien qui fait le cri, un chat qui fait le cri, et une brebis qui fait le cri. Et ça marchait.
Ouais, et bon, c'est porter le monopole. Tu les achètes tous, c'est comme ça.
Non, mais t'achètes tous les fois le même tableau, c'est vraiment, enfin, thématiquement,
le
ça marche.
Le tableau
pas.
Et les contrefaçons.
Voilà. T'achètes la totale.
Boursicocotte, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. J'ai pas joué à la nouvelle version, mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué à l'époque, il y a 25 ans. Et si on me demandait, est-ce que par rapport aux normes de jeux de société dans ce moment, ça correspond? Le premier jeu qu'on m'aurait dit, est-ce que tu l'aurais édité? C'est pas du tout celui-là qui me vient à l'esprit. Pour moi, ça fait dater comme système de jeu, je trouve. Je peux comprendre le fait que t'aies eu envie de mettre fin à la partie. Je leur souhaite de, qu'ils marchent, hein, je vois pas le problème, mais.
Et c'est vrai que le marchandage, on s'est dit, ça peut être infini. Je te prends ta carte, le tour d'après tu me reprends la carte, puis moi je te reprends la carte, puis toi tu me reprends la carte.
Ouais,
quand
on a
fait
fini
ça
par faire
tapis, parce que t'échanges les sous à chaque fois, donc si t'as pas envie de lâcher le morceau, ça peut durer des heures, quoi. Déjà, moi j'ai trouvé que la partie était très très longue pour ce que le jeu donnait sous la dent, quoi.
C'était donc L'art de la boursicocotte par Rüdiger Kölze. Illustré par Kniff Design et édité chez Ravensburger pour 3 à 5 joueuses à partir de 10 ans et des durées de partie estimées à moins de 30 minutes.
Ça, c'est en durée effective, en ressenti, c'est un petit peu plus. Kurt, tu as pris le temps d'aller te balader sur chez Libellude ?
Chez Libellude, oui, tout à fait. Nous avons été jouer à Tech Time, un jeu qui sortira, nous a dit l'animateur au moment des scènes. Que dire de Tech Time ? C'est un jeu coopératif à scénario. Donc dans le jeu, dans la boîte, il y a 10 enveloppes. Dans chaque enveloppe, il y a 4 horloges. Et il va falloir, à l'aide des autres joueurs autour de la table et à l'aide de cartes, résoudre chacune des horloges les unes après les autres. Comment est-ce qu'on résout une horloge ? Ah bah c'est assez simple, il suffit de ranger le temps autour du cadran dans l'ordre. Facile ? Non, pas si facile, parce qu'on possède chacun 3 cartes, si on joue à 4, et il va falloir disposer les 12 autour sur 6 emplacements, face cachée. Et c'est le total des cartes qu'il va falloir d'abord la plus petite, ensuite un peu plus grande, jusqu'au plus grand chiffre. Facile ? Non, parce qu'il y a aussi des conditions de pause. À tel endroit, il faudra que le total soit situé entre 20 et 30. À tel endroit, il faudra absolument jouer une carte nuit. Les cartes sont divisées en 2 parties, jour et nuit. 12 cartes dans chaque couleur. Si on fait le calcul, 2 fois 12, ça fait 24. 24 heures dans la journée, on est bon. Qu'est-ce que j'en ai pensé, personnellement ? J'ai beaucoup aimé. Je pense que Cyrus est à peu près du même avis que moi.
Oui, ouais,
oui,
tout à fait.
Mais je crois qu'autour de la table, il y a d'autres personnes qui y ont joué et qui ont un avis assez différent.
Alors moi, avant de te répondre, j'aimerais savoir pourquoi tu as aimé.
Ouais. Moi qui suis pas attiré, qui n'ai pas envie, les jeux Legacy, en fait, avec destruction du matériel et tout, m'intéressent pas. Et je pense que c'est une bonne alternative. Le côté coopératif m'a vraiment plu parce qu'il y a une phase, le jeu se joue en 3 phases. On distribue les cartes, on ne les regarde pas, on discute, on s'organise, il faut qu'on pose là, puis là. Ouais, mais si on a ça, d'abord les plus petites, ensuite les plus grandes cartes, et ici essayons de poser les cartes moyennes, etc. J'ai trouvé que la phase de collaboration entre les joueurs était vraiment intéressante. Au moment de les poser, le tour est assez rapide. On fait trois tours, c'est très rapide. Et la phase de révélation, mine de rien, c'est pas une tension de dingue. On n'est pas des démineurs. Bombbuster ? Non, pas Bombbuster. Mais il y avait une petite tension quand même de savoir la montée en puissance de... Bon, là, c'est un 1, tout va bien. Deuxième en coche, 1 plus 3, ça fait 4, ça passe, etc., etc. Moi, j'ai vraiment trouvé l'ensemble donnait un tout vraiment cohérent, vraiment intéressant.
On a pas dit, c'est un jeu de Julien Protière.
J'allais, oui.
Jeu coopératif, et on retrouve vraiment sa patte là-dedans. Julien Protière, c'est quelqu'un qui veut qu'on discute autour de la table. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il a découpé le truc en 2 phases. Il y a vraiment ce moment où il faut qu'on arrive à se mettre tous d'accord sur comment on va jouer. Alors qu'on sait pas encore qui a quoi précisément. Alors, on a juste les indices des autres cartes qui peuvent être des trucs hein, quand même. Hein. Nous on a typiquement le premier horloge, il y a le premier cadran, il faut venir poser la carte de la plus petite valeur possible. On sait que c'est une carte nuit, donc on dit ok, ce serait bien du coup que ce soit la personne qui a 2 cartes nuit qui démarre et puis ensuite on va on lui a dit clairement, écoute, on s'est mis d'accord. Hein. Si t'as une carte d'une valeur entre 1 et 3, tu la poses, sinon en fait, on passe au suivant, on va voir, tac, tac. On a envie c'est tout un tas de conventions, en fait, entre nous, pour essayer de résoudre un puzzle dont on n'avait pas encore toutes les pièces, hein.
Ouais, je sais pas si, tu as précisé que pendant cette phase de préparation, on n'avait absolument aucune visibilité sur les cartes?
Oui, absolument. On distribue les cartes, elles restent face cachée. Ensuite, on discute. et une fois qu'on est lancé, on ne parle plus. Ouais, ouais, tout à fait.
Bon, alors je peux laisser un peu le bénéfice du doute parce que c'est le dernier jour et qu'il est probable que pour ce type de jeu, effectivement, tu cites Julien Protière, je pense que derrière, il y a une réelle intention de communication qu'on a peut-être un peu bâclée. Toutefois, j'ai pas ressenti l'intérêt du challenge. Tu vois, je me suis pas sentie challengée en fait en étant devant cette horloge et en essayant de positionner mes cartes. On avait une sorte de scénario d'introduction qui était peut-être un peu trop facile, ou alors j'ai pas assez cherché à savoir ce qui arrivait par la suite pour essayer de me donner envie peut-être d'aller plus loin et tenter en fait d'accepter le challenge d'évolution progressive et la complication que ça peut donner dans notre manière de communiquer. En tout cas là actuellement, c'est vrai que tu me dirais de réessayer là aujourd'hui, je pense que je te dirais non. Mais bon, si peut-être qu'on a effectivement pas assez pris le temps de s'axer sur cette communication et que c'est peut-être de là que vient notre mauvaise expérience. En tout cas, l'absence de ressenti du challenge que le jeu doit proposer en fait. Hein.
Après, challenge, c'est le premier niveau, donc c'est pas le niveau le plus dur non plus.
Ouais.
Tu vois, mais. En tout cas, enfin, j'en attends malgré tout un certain renouvellement d'une enveloppe à une autre. Voilà, enfin, j'espère quand même qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont se créer et qui vont nous proposer d'autres choses, peut-être casser des petites choses qu'on aura mis en place, nous faire switcher dans nos conventions, etc., etc. Quoi. Apparemment, dans les différentes enveloppes, il y a des feuillets de règles, donc d'ailleurs, j'imagine des twists. On l'espère. Voilà, on verra.
Une évolution à chaque fois. Oui, on est d'accord.
Oui, moi, ça m'a laissé vraiment complètement froide. Aucun sentiment devant le jeu. On a tenté deux fois la première horloge. Perdu deux fois. Ça m'a absolument rien fait, quoi.
Alors, il s'agit du jeu Tech Time, un jeu de Julien Protière illustré par Alexis Piovesan, édité chez Libellude pour des parties d'une trentaine de minutes. Alors, 30 minutes, c'est sous condition. L'animateur n'a pas su nous dire exactement si c'était 30 minutes pour une enveloppe, pour une horloge. A priori, partait sur 30 minutes par enveloppe.
En fait, c'est assez lâche en termes de... C'est quoi une partie, quoi.
C'est quoi une partie, ouais, tout à fait. Le jeu est donné pour 10 ans, pour 2 à 4 joueurs, et pour une sortie autour des scènes, fin octobre.
Eh ben, merci beaucoup, Kurt, c'est le reste de l'équipe. Et Cyrus, tu as été jouer avec des bêtes mythiques à Mythicals?
Ah oui, on a joué à Mythicals, on a enchaîné ça juste après Toy Battle, parce que c'est un jeu qui est chez Repos Productions également. C'est un jeu à deux, encore. Il y a clairement une mode, c'est un truc de dingue. On a joué à deux aujourd'hui avec Kurt. Alors non seulement on a facilement trouvé des... à se joindre à des tables, mais en plus il y a plein de jeux à deux, donc c'est vraiment c'était l'année pour traîner à deux dans un salon. Donc Mythicals, qu'est-ce qu'on va devoir faire là-dedans? Il va falloir faire le plus de points possible, et pour ça on va essayer de faire des séries de cartes, des suites hein, dans différentes couleurs. Alors, on peut également faire des paires brûlants dans la main. Le principe c'est que donc on pioche trois cartes, on va prendre uniquement les cartes d'une même couleur dans cette série. Et au bout d'un moment, les cartes qui sont abandonnées, on les met de côté, et puis on peut aussi venir prendre dans ces cartes qui ont été mises de côté. Et en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, hein, voilà, on va le dire tout de suite, dans le jeu, c'est que, en fait, c'est, pour moi, ça rentre dans la catégorie de ces jeux que j'appelle pré-mâchés. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues, tu réfléchis même pas, tu prends des cartes, tu les stocks, hein, ok, tu fais un scoring. Au bout d'un moment, en fait, t'en oublies même de faire certains trucs. Tellement, tout devient automatique, c'est du jeu tellement fluide, qu'en fait, y a plus rien, quoi. C'est tellement fluide que ton cerveau c'est de la purée, et puis il y a plus aucun attrait en fait. Il y a zéro émotion, il se passe que dalle, c'est l'encéphalogramme plat. Je me sens jamais challengé.
Non, il est joli. Il y a pas débat, mais les choix sont comme dit Cyrus, les choix sont tellement évidents en fait.
Il y a pas de tension.
Si on tire trois cartes, qu'il y a deux bleus, une violette, et que j'ai déjà du bleu dans ma collection, zéro réflexion, je prends le bleu. J'ai rien ressenti. Non, effectivement, j'ai rien ressenti. À la fin, on a compté les points, puis ouais, bah c'est bad, j'ai tant, t'attends, voilà, c'est fini. Non, vraiment.
Voilà.
Voilà.
T'en dis long. voilà, donc c'est un jeu de Alexis Allard et Joanne Dufour, illustré par Marina Coudray. Donc c'est chez Repos Productions. C'était en vente. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou si c'était de la pré-vente. Voilà. 15 minutes, 2 joueurs, 8 ans.
Alors en effet, si c'est Marina Coudray qui a illustré, ça peut être beau parce qu'elle a fait l'une des plus belles extensions de Dixit. Faudra que j'aille voir, juste pour le plaisir des yeux. Eh ben, c'est à moi de parler. Moi, je suis allée danser avec des fantômes dans un jeu enfant. Et à vrai dire, moi, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus plu de la journée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était... Alors soit c'est vraiment la fatigue qui parle, soit c'est juste pas de bol. Et j'ai l'impression qu'on a enchaîné des jeux pas terribles. Et d'un coup, on s'est dit, bah tiens, celui-là, il a ce jeu-là, un matériel déjà qui est magnifique, qui donne envie, qui paraît... assez intéressant et assez novateur. Allons-y, allons nous asseoir sur des toutes petites tabourets avec bientôt les genoux au niveau des oreilles. Parce que voilà, on était chez les enfants. Et donc, dans ce jeu, nous jouerons des voleurs et des voleuses qui essayent de récupérer des artefacts dans un manoir hanté. Et à notre tour de jeu, on va tirer deux dés. L'un qui va faire qu'on déplace un des trois personnages au choix. Et les personnages ne sont pas liés à quelqu'un, parce que c'est un jeu coopératif. Donc l'idée, c'est d'arriver à récupérer tous les artefacts, de se barrer avant que les fantômes qui hantent ce lieu nous enferment dans le manoir. Donc pour ça, vous tirez deux dés. L'un vous permet de vous déplacer et l'autre va faire en sorte qu'on va faire se déplacer les fantômes. Et là, les fantômes sont aimantés. Sur un plateau aimanté, quand vous tournez ce plateau, les fantômes vont se déplacer, mais de manière complètement imprévisible. On sait à peu près dans quel sens ils vont se déplacer, mais on a l'impression vraiment qu'ils flottent au-dessus du plateau. On ne sait pas où ils vont aller. Ils peuvent toucher certains de nos personnages, auquel cas, c'est là que les portes vont se refermer petit à petit. Et il y a vraiment ce truc un peu magique quand on déplace ces fantômes, de se dire, est-ce que ça va nous toucher? Est-ce que ça va pas nous toucher? Des fois, ça se passe à un millimètre, il nous frôle. Et on voit pas du tout où il va aller. Et ça, c'est complètement magique. Moi, ça m'a procuré des émotions de ouf. Quand il nous frôlait comme ça à quelques millimètres, j'avais presque la chair de poule. C'est très con, hein, mais vraiment, ça m'a procuré des choses. Et c'était mes plus belles émotions de la journée. On reparlera d'un autre jeu qu'on a testé avec Caducé, qui était très cool aussi. On a beaucoup ri. Mais là, vraiment, ce truc de wouhou, c'est passé pas loin et incroyable.
Ouais, il y a en effet des changements de direction très très bruts et on se dit là, il fonce sur mon bonhomme, il fonce sur le bonhomme et paf, mais à 90 degrés, il est parti et ça passe, voire même il comme s'il sautait par-dessus le bonhomme et il repart derrière. Les trajectoires sont incompréhensibles et très surprenantes.
Ah ouais, c'est un truc, c'est des aimants, c'est pas si compliqué que ça, mais ça fonctionne tellement bien.
Alors justement, nous, en bon curieux, on voulait ouvrir la boîte et il nous dit, mais de toute façon, ça sert à rien parce qu'en fait, le système est scellé entre deux planches de carton. Même eux, ils savent pas, les animateurs, ils savent pas. Et du coup, on a commencé à analyser, on regarde et effectivement, tu fais des allers-retours, ça passe presque au même endroit, mais pas tout à fait. Donc il y a une notion de variabilité. En plus, dans la trajectoire, parce que le dé va te permettre comme ça de faire des allers-retours. Tu fais du bleu, ça va dans un centre. Tu fais du rouge, ça va dans l'autre. Facile, il est passé là, donc je crains rien. Mais non, parce que ça va changer quelques millimètres. Et c'est peut-être les quelques millimètres qu'il ne faut pas.
Alors nous aussi, on a fait nos curieux. Et on a aussi démonté un petit peu le système. En fait, quand tu regardes à contre-jour, tu arrives à voir cette forme qui ressemble à une sorte de fleurs à plusieurs branches avec des branches qui n'ont pas la même taille. Il y a clairement une asymétrie, hein. C'est pas du tout un trajet symétrique, mais on a eu cette curiosité là aussi. Et en plus de ces mouvements aléatoires qui ont un rendu extrêmement satisfaisant, les petits fantômes ont un visage et par moment en fait ils pivotent juste un tout petit peu, il se retourne et puis selon où on est positionné, on voit en fait le fantôme qui se retourne et qui se met à nous regarder alors qu'on a notre petit pion juste à côté. Et ça aussi, c'est vraiment super. On était en fait entre adultes, hein. Et c'est effectivement un jeu où on s'est tous laissé prendre à cette valse en fait, hein, car le nom du jeu est bien choisi aussi.
Oui, hier on parlait de comment s'appelait l'attraction de ta na 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 na. Et oui, fallait. Et ben là, ce coup-ci, la maison des poupées. Et ben là, c'était le manoir hanté. Le manoir hanté, où je sais pas si vous l'avez fait avec les hologrammes là qui se baladent et qui dansent. Mmh. Et ben voilà, si on doit relier ce jeu à une attraction d'Euro Disney, enfin de Disneyland Paris pour les gens modernes, et ben ça serait le manoir hanté avec ce côté un peu magique là des hologrammes qui dansent.
On y avait joué aussi, et c'est un jeu coopératif et pas si simple que ça. Nous, on a eu un petit problème technique, les fantômes à un moment ne fonctionnaient plus. Donc il faut vraiment bien s'assurer que la plaque supérieure sur laquelle on pose nos pions est bien clipsée. Sinon, en effet, ça bloque les fantômes. Et malgré ça, on a perdu. On est resté coincé dans le manoir.
Bah, suffit qu'un fantôme il se scotche sur l'un des lieux où on doit aller récupérer un des jetons. Nous, ça nous a fait le coup. En 2-3 tours, il y en avait un, il squattait, et deux de nos personnages devaient aller récupérer le coffre. Et ben, donc t'as les autres fantômes qui se baladent, qui viennent cogner ton personnage, mais le jeu il avance plus. Et ça aussi, ça fait monter une tension, et c'est très cool. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose sur ce petit fantôme qui danse?
Non, mais enfin, moi je trouve que Drally Maga, c'est souvent une valeur sûre. La valse des fantômes, c'est parmi des bonnes sorties. Ça vaut peut-être pas le labyrinthe magique ou l'escalier hanté, mais ouais, c'est bien foutu. Et il y a vraiment ce côté magique. J'attends de voir devant des enfants si ça capte, enfin si ça marche bien. J'ai juste un peu peur du côté un peu punitif que ça peut faire ressentir le côté en fait où tu peux te retrouver avec les 6 tuiles des portes sur l'eau. Bon, c'est vraiment pas de bol, on est d'accord, mais tu peux vite te retrouver avec la fermeture un peu hâtive, quoi. Voilà. Bon, après, c'est le côté aléatoire des jeux pour enfants. Hein. Ouais. Non, mais c'est une valeur sûre, c'est clair. Et le côté, je suis d'accord, sur la partie magique, qui est absolument pas mécanique, hein, soyons bien clairs.
Donc, c'était la valse des fantômes de Wolfgang Dischert et Wolfgang Lehmann, illustré par Rolf Vogt chez Drei Magyar. Pour 1 à 4 joueurs et joueuses. Nous, on a joué à 6, ça marche aussi. 5 ans et plus, c'est une durée de partie d'environ 20 minutes. Donc, après les fantômes, on va aller avec Drew pour Cocoons.
Oui, donc nous aussi, on allait s'asseoir à une table où il y avait marqué sur le jeu Wilfried et Marie Faure et Julien Riffon. Et on s'est dit, tiens, un jeu pour enfants, si on essayait. Et en fait, c'est un jeu qui reprend le principe du taquin. Dans la boîte de jeu, on va avoir 9 petites boîtes organisées donc en 3x3, et on va en retirer une. Et ces petites boîtes, elles ont une particularité, c'est qu'elles cachent en dessous d'autres tuiles. Il y a comme ça un espèce de double fond dans la boîte, hein, un empilage de punchboard. Et dans ce double fond, on va cacher des animaux. Donc pour aller découvrir ces animaux, il va falloir comme ça qu'on bouge nos boîtes une par une en dépensant un jeton. On bouge la boîte, on regarde ce qu'il y a dessous. Ah, c'est l'animal untel. Et le but est de prendre cet animal untel et de le mettre dans la bonne boîte qui est au-dessus. Mais la bonne boîte qui correspond à l'animal, on ne la connaît pas facilement. Elle est en fait écrite sur une des 4 faces de cette petite boîte. Donc il va falloir faire bouger les boîtes pour à chaque coup dégager la bonne face de cette boîte pour repérer quelle boîte correspond à quel animal. Et après, aller découvrir l'animal et le placer dans la bonne boîte. Et tout ceci, eh ben, ça coûte des jetons. Un déplacement de boîte, c'est un jeton. Et on a 25 jetons pour faire tout ça. Ce mode-là, c'est le mode de base. On l'a trouvé déjà pas mal, hein. Même pour adultes, c'est déjà pas mal. On a réussi, il nous restait peut-être 8, 10 jetons. Oh, ok. Soit. Et après, l'animatrice a commencé à nous expliquer les versions avancées. Puisqu'en fait, on a toujours nos animaux en dessous, mais ces animaux sont recouverts d'une tuile. On va pouvoir remplacer les tuiles de base par des tuiles à effet. Ces tuiles à effet peuvent être intéressantes pour accélérer le jeu, donc il y a une tuile à effet, quand je la révèle, hop, je rebouge une boîte tout de suite, mais il y a des tuiles qui font tourner la boîte. Donc, ce jeu qui a quand même une bonne composante de mémoire, d'un seul coup, prend une difficulté un peu plus corsée, surtout si on a une mémoire un petit peu légère.
On avait déjà des boîtes qui bougent, hein, avec la notion de jeu de taquin, donc mémoire spatiale et visuelle. Et là, en plus, tourner d'un quart de tour la boîte complexifie la chose.
Voilà. Après, il y a encore un autre niveau, c'est-à-dire que ces tuiles qui recouvrent les animaux, on va leur donner des numéros, de 1 à 9. et il faut commencer par chercher la tuile 1, et après la tuile 2, et après la tuile 3. Donc on a comme ça toute une complexité qui fait que ben c'est pas que un jeu pour enfants. Il est tout mignonnet, il y a des belles pièces, mais il y a une vraie profondeur, et nous, ça nous a plu. Déjà, le jeu de base était intéressant, et quand on commence à réfléchir aux possibilités de ces nouvelles tuiles, alors je voulais pas tout expliquer, il y en a plusieurs autres, mais ça redonne une complexité qui fait que ben les enfants ils vont galérer un peu, hein, c'est pas vraiment pour enfants. Donc c'est vraiment, on s'y attendait pas, bonne surprise, et pour vous dire, on l'a pris pour le ramener pour notre assaut de jeu, parce que on estime que ben ça va aussi bien plaire aux enfants qu'aux plus grands.
Moi je pense que ça plaira plus aux plus grands qu'aux enfants. Je vois absolument pas un enfant de 6 ans attiré par ce genre de jeu. C'est un casse-tête qui est pas du tout un casse-tête comme un smart game ou un truc comme ça, tu vois, il y a pas le côté matériel, il y a pas il faut avoir envie d'aller se cogner des déplacements de boîte pour aller déplacer des jetons. Plus ergonomiquement, il faut pas oublier de mettre les jetons. Bon, ça vas-y, hein, ça, on l'oublie à pas quelle fois enfin, on l'a rattrapé à chaque fois, mais c'est un truc qu'on oublie systématiquement. Je pense que le premier niveau peut-être 6 ans, mais dès qu'on tape les autres niveaux, je pense qu'on est déjà plus à 6 ans.
Il est donné effectivement pour 6 ans, mais ce qu'elle nous explique l'animatrice aussi, c'est qu'on peut mettre aussi des configurations plus ou moins simples pour les enfants. C'est-à-dire qu'on peut déjà partir avec la boîte, le jeton centré, et déjà les 4 faces qui te donnent 4 animaux. Donc tout de suite, tu as déjà une somme d'informations dès le départ, tu as 4 animaux, tu bouges une boîte, tu as une chance de tomber déjà sur l'animal qui va dans une de ces 4 boîtes. Tu vois. Donc effectivement, il n'y a pas que la notion de module, il y a aussi cette notion de préconfiguration au niveau de la boîte.
Alors, moi je reconnais un attrait au jeu, moi je dis juste que c'est
oui tout à fait
que pas du tout un jeu pour enfants. Pour moi jamais de la life ça marchera pour des 6 ans.
Si mais accompagné.
Non mais enfin j'adore ça.
Ouais. Non parce qu'effectivement on l'a testé hier après-midi avec Cyrus, on a fait que le premier niveau, le niveau de base. Personnellement, j'ai trouvé ça plaisant. J'ai du mal à me projeter à la place d'un enfant de 6 ans, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que...
T'as plus 6 ans?
Ouais, que j'ai plus 6
t'as
ans.
T'as même pas 6 ans ressenti?
Non, je suis un tout petit peu au-delà.
Non, mais en fait, le truc, c'est que si t'as 6 ans ressenti, tu vas kiffer des trucs comme la valse des fantômes. Ouais, ça oui. Parce qu'il y a ce côté Magic Doom, là, il y a pas ça.
Je pense que tu jettes 2-3 enfants de 6 ans autour de la boîte, ça fonctionne pas. Tu jettes 2-3 enfants de 6 ans avec un adulte qui gère le jeu, ça peut faire le job.
Ok, donc c'est Cocoons chez Banquise Edition, un jeu de Wilfried et Marie Faure accompagné de Julien Griffon, illustré par Camille Chaussy. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses pour une partie de 20 minutes et à partir de 6 ans ou un peu plus.
Ok, et Lana, tu es allée faire du jardinage? Et avec quoi? Avec un harnais et puis en escalade?
On avait un petit peu de temps devant nous, donc on est passé devant une très jolie table avec le jeu Les Jardins Suspendus. Les Jardins Suspendus, c'est un jeu de tableau building, un PPP de plus. Ma foi, extrêmement joli. Illustré par Miguel Coimbra, c'est magnifique. On va chercher à construire le plus beau des jardins suspendus. C'est un peu en mode pyramidal, puisqu'on a une base de 5 cartes, puis 4, puis 3, avec les contraintes qu'on connaît d'une pyramide. C'est très beau, on va faire une prise de tuiles avec des contraintes plutôt simples pour prendre, mais il faut parfois payer quelques ressources, donc on fera attention à la gestion de ces ressources. On va pouvoir mettre des fleurs dans son tableau, des fleurs qui scorent par collection, on peut mettre des personnages qui donnent des scorings spéciaux, des types de cartes qui sont à placer à certains endroits, etc., etc. Le petit twist, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer son jardin en payant des ornements complémentaires et ainsi améliorer son scoring, voire même récupérer des ressources. Bon, clairement, c'est un PPP de plus. Ça m'a pas emballé. Y a rien à lui reprocher, ça tient ses promesses. 30 minutes, familiale, à partir de 10 ans. Ouais, la promesse est tenue. Mais vraiment, rien de neuf sous le soleil, à part ses magnifiques illustrations. Mais ça ne suffit plus.
Oui, rien de plus à ajouter, hein. C'est vraiment basique, fonctionnel, plat, sans sentiment, quoi. Des choses déjà vues et revues, des conditions de points, ouais. La mécanique de prise est peut-être un peu plus intéressante et encore, mais ouais. Franchement, j'en attendais plus, hein. On en attendait plus par le petit buzz qu'il a fait, mais voilà, c'est tombé à plat.
Alors, On est peut-être certainement lassé des tableaux building. Cette année, j'avoue, ce qui m'a accroché, quel que soit le jeu, c'est l'interaction entre les joueurs. Et là, on en a de nouveau pas à une petite course sur un objectif. Enfin, c'est vraiment très, très classique. Pas suffisant, pas assez d'interaction. Ça se veut familial et ça l'est. Ça n'empêche pas d'interagir entre les joueurs. Les Jardins suspendus, c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par Miguel Cambra, pour 1 à 5 joueurs, 30 minutes environ la partie, pour 10 ans et plus, et ça sort bientôt chez Gigamic.
Ouais, et justement, quand tu étais chez Gigamic à jouer à ce jeu-là, en face, il y avait Œuf pour Œuf, auquel tu as joué l'autre jour, et avec une scène un peu cocasse, parce qu'Œuf pour Œuf, c'est un jeu avec une rotation un peu enfant, on va dire, sauf qu'il l'avait mis sur un manche debout. Et ben voilà, et ben il y a la petite qui jouait à ça, elle avait pris une chaise, montée sur la chaise pour pouvoir jouer sur le manche debout avec sa mère. Voilà. Donc des fois faut penser que les jeux pour enfants, faut pas les mettre à 1m50 de haut quoi. Voilà.
Ou prévoir les tabourets pour que les enfants puissent jouer. Alors merci beaucoup Lana et maintenant on va repasser par Kurtz qui est allé jouer aux Potions d'Azerland.
Dans les Potions d'Azerland, les joueurs et joueuses vont jouer le rôle d'apothicaire pour les peuples de la forêt. Le but c'est de marquer des points, il n'y a pas débat, voilà, mais si on met ça de côté, on va avoir plusieurs actions possibles, par exemple rassembler des ingrédients, on va aussi pouvoir les acheter d'une autre action, on va pouvoir étudier. Plus on aura étudié, plus on aura de savoir, et plus on aura de savoir, meilleures seront nos actions. On pourra vendre nos potions à la taverne auprès des poivrons pour bien les accrocher, pour qu'ils restent chez nous, pour qu'ils nous marquent des points. Le petit twist intéressant de ce jeu, qui sinon n'aurait absolument rien d'original, c'est que il y a une petite tablette qui va nous permettre de déterminer l'ordre du tour. On a 5 cases, donc marchandage, vente, achat, etc. Avec une petite fente, et dans les petites fentes, on va pouvoir mettre des tuiles. La tuile va déterminer les numéros 1, 2, 3, 4, 5, ou une somme d'argent. Et si je joue pas à ce tour-là, je ramasse de l'argent. Autour du marchandage, on va regarder. Alors, t'as mis quoi comme numéro? J'ai mis 1, t'as mis 2, à toi aussi t'as mis 1. Les 1 vont jouer en premier en fonction d'un petit système de chaudron avec des numéros. On a chacun un chaudron 1, 2, 3, 4. Et là où ça devient intéressant, c'est que si 2 joueurs avaient le même numéro, ils doivent s'échanger leur chaudron. Si 3 joueurs avaient le même numéro, il y a un système d'échange. Si 4 joueurs avaient le même numéro, il y a encore un autre système d'échange. Ce qui fait que sur les tours d'après, où j'avais estimé que je serais le premier sur ce tour-là, non, j'ai perdu mon chaudron au tour d'avant. Ce qui peut apporter, on pensait faire une petite programmation. Là, je vais être bien, je vais pouvoir récupérer tels ingrédients pour faire telle potion, pour pouvoir le vendre à telle personne dans le bar. Et ben, au final, pas du tout. J'ai joué avec Cyrus et 2 autres personnes qui étaient de passage. Dans l'ensemble, les retours étaient plutôt positifs. On a tous apprécié notre partie.
Ouais, j'ai apprécié la partie, mais c'est pas un jeu qui va rester dans les annales. Hein.
Effectivement,
c'est pas très vite oublié malgré tout. Hein.
Oui, c'est pas révolutionnaire. C'est juste plaisant sur le moment. Voilà.
Ce qui est déjà pas mal, hein, un jeu plaisant sur le moment, fois on en demande pas beaucoup plus que ça non plus, hein.
Absolument.
On est aussi là pour passer des bons moments, on n'est pas obligé de tout ramener chez nous. Et pour moi, un jeu fait le job déjà si on passe un bon moment.
Tout à fait. Voilà. Donc il s'agissait du jeu Les Potions d'Azerland, un jeu de Graydon Baker, illustré par Andrew Bosley. C'est édité chez Lucky Duck Games, ça sort dans les semaines, 1 ou 2 mois à venir maximum. Donc les parties sont données pour 45 à 90 minutes, ça se joue de 1 à 4, il y a un mode solo, et pour un âge donné à partir de 14 ans.
Andrew Bosley, c'est l'illustrateur d'Everdell.
Voilà, oui, c'est très joli, c'est très très joli, les illustrations sont superbes.
Oui, je me doute que ça doit être très très beau, parce qu'Everdell, c'est carrément canon.
Et de la moitié d'Unconscious Mind.
Et à la moitié d'Unconscious Mind. Et Caducé, t'es allé faire des grandes aventures?
Eh oui, vous connaissez Top 10, vous connaissez Top 10 18+, et vous allez pouvoir, dès cet été, jouer à Top 10 Aventure. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Top 10, c'est un jeu coopératif au cours duquel on va désigner un captain parmi l'ensemble des joueuses. Et cette captain va lire une phrase situationnelle à l'ensemble de l'équipe. Et chacun aura reçu un numéro de 1 à 10, et il va falloir essayer de graduer sa réponse par rapport à la situation proposée, et le capitaine a pour mission d'ordonner correctement les numéros, tenant compte des réponses qui auront été données. Donc, qu'est-ce que Top 10 Aventure va apporter de plus à tout ça? Le Top 10 18+ apportait juste des situations adaptées à un public adulte. Le Top 10 Aventure réussit à introduire un aspect narratif dans le jeu Top 10. Un petit peu comme quand, vous savez, vous jouez en groupe avec vos potes et il y a une sorte de running gag là qui se met un petit peu en route où vous reprenez des choses que vous avez dit une vingtaine de minutes un peu plus tôt, qui reviennent un peu sur le tapis, et puis cet effet là qui fait rire tout le monde parce qu'il y a cette complicité qui s'est un petit peu créée et qui rappelle l'élément drôle qui a eu lieu quelques cartes plus tôt. Et là, en fait, c'est ce que va proposer Top 10 Aventure. Vous allez avoir non pas des petites cartes avec des situations isolées, vous allez avoir des grandes cartes aventure avec des thématiques que vous allez découvrir au fur et à mesure, puisque chacune va comporter 5 phrases situationnelles auxquelles vous allez devoir répondre un petit peu comme un fil narratif, parce qu'elles vont toutes être en lien. Le ou la capitaine sera la même pendant cette phase de carte aventure, et si vous le souhaitez, je vais juste vous proposer de vous lire la carte de démo qui était laissée pour les gens qui venaient y jouer. Là, nous étions dans le grand thème, c'est aventure et découverte. La petite phrase situationnelle, c'est: alors que vous commencez à jouer à Top 10 Aventure, vous remarquez une petite inscription par les créateurs de Jumanji. Première phrase situationnelle. Tout à coup, le décor autour de vous se métamorphose. À quoi ressemble ce nouvel environnement? De paradisiaque à cauchemardesque. Donc là, vous avez une première phase où vous allez vous positionner par rapport à ça. Le capitaine essaye d'y répondre. Et on passe à la deuxième situation. Au loin, un animal s'approche. À quoi ressemble cet animal fantastique et inconnu? Décrivez-le. De « il semble inoffensif » à « il semble super dangereux ». Bon, jusque-là, vous sentez que vous progressez un petit peu dans l'histoire. La troisième phase. Cet animal vous fixe intensément et d'un coup réagit. Que fait-il? De « amical » à « hostile ». Et à ce moment-là, la phrase, en fait, vous précise qu'il faut reprendre un petit peu votre fil narratif. Ça vous incite à expliquer que donc vous fixez cet animal, qu'il s'approche, et vous allez avoir réellement un aspect narratif qui se met en route et qui donne un intérêt certain à cette nouvelle boîte qui, à mon sens, ne vient pas faire doublon avec le Top 10 de base. Alors la question, c'est: est-ce que on peut l'envisager de le proposer à jouer à des personnes qui n'ont jamais eu connaissance du jeu Top 10? Ça, il faut voir. Peut-être que la première découverte pourrait être un petit peu plus compliquée pour ce type de jeu qui demande un investissement un peu narratif qui vient en fait plutôt naturellement. Moi, j'ai trouvé que c'était qu'on s'est laissé prendre au jeu. Alors, on n'a pas du tout fait cette feuille de démo. On a eu accès à d'autres cartes et on a bien rigolé. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous avez l'occasion de l'essayer, l'aspect narratif est vraiment bien rendu, il est favorisé, et cet aspect de running gag, en fait, qui est favorisé par les réponses qui sont amenées progressivement par l'ensemble des joueuses, est hyper satisfaisant.
Ah oui, moi, c'est avec la valse des fantômes, c'est vraiment, comme je vous l'ai teasé tout à l'heure, le jeu qui m'a le plus plu dans la journée. Je pense qu'il faut vraiment le garder pour des gens, enfin le faire jouer à des gens qui ont un imaginaire, une imagination un peu débridée. Sinon, ça peut, je pense, tomber un peu à plat si vous n'avez pas des gens qui se lâchent un petit peu.
Déjà le cas sur Top 10.
Déjà le cas sur Top 10, mais Top 10, tu peux avoir des réponses plus courtes. Là, c'est vrai, comme ça favorise l'idée de créer une histoire.
T'as une base de narration, en fait. Là, justement, tu arrives progressivement à construire une histoire et t'as une base de narration, en fait, qui, à mon sens, favorise plutôt cette construction.
Faudrait voir, essayer la carte de démo, et puis de toute manière, ça vous permet déjà de vous donner une idée. Vous en avez une partie par Caducé. Mais oui, on a bien bien rigolé, et si des fois vous croisez Caducé dans la rue, vous pourrez l'appeler agent anti-vaujambon. Voilà, c'est son nom de code.
C'était Top 10 Aventure pour 4 à 9 joueuses à partir de 14 ans, un jeu d'ambiance de Cocktail Games d'une durée de 30 minutes, toujours par Aurélien Picollet et illustré par Laura Michaud.
Eh bien, nous sommes arrivés au bout de la liste de cette journée et puis du coup au bout de toutes nos parties de cette édition du Festival International des Jeux de Cannes. J'ai failli dire Essen. Ouais, comme quoi, parce que ça s'internationalise, parce qu'il y a des gens déguisés, ça fait de plus en plus Essen.
Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens autour de nous, là, en ce moment?
Il y a tout le monde qui range, on va bientôt foutre dehors. On voit, c'est beau, ces gens qui rangent, là. Mm. On voit les stands qui, et c'est triste aussi. Les gens rangent. Mm.
Et vous savez qu'on va pas pouvoir rester là éternellement. Hein. On va devoir, vous quitter. Là,
ouais, on va devoir rendre les micros.
Se quitter
ouais.
aussi.
Se quitter
temps,
aussi.
Si c'est vide, rester là, y a pas grand chose à faire.
Puis il fait pas bien chaud là. Par moment, il y a des vieux courants d'air et on est un peu frigorifié.
C'est dommage. Commencer à avoir un peu de silence pour enregistrer.
Ouais, c'est dommage. Eh ben, est-ce que, chers camarades, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui sont passés. C'était super. Tous ceux qui sont venus nous dire un petit mot ou qu'on a croisé dans les couloirs, ça fait super plaisir. N'hésitez pas sur d'autres festivals.
Mmh, on vous aime fort. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire? Dernier mot une fois, dernier mot deux fois, dernier mot trois fois.
Adjugé vendu.
Et ben c'est la conclusion. Donc chères auditrices et chers auditeurs, c'est la fin de ce débrief et de notre séjour à Cannes. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet de l'émission. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve dès vendredi pour les jeux du mois et d'ici là,
jouez bien.
Alors, autant hier, ils oubliaient de donner de faire des annonces, autant aujourd'hui, là, on n'oublie pas pour foutre les gens dehors le dernier jour.
Ils en ont marre. Ça fait 5 minutes, là.
Le
salon
ferme ses portes dans 5 minutes. Merci de vous diriger vers la sortie. Bonne soirée à tous. Et
dans
6
minutes, ils essaient de nous gratter une minute. Donc, ouais.
Vous voulez pas, sortir par la peau de ceux qui braillent à côté, là?
Ou pas.
Le salon ferme ses portes. Merci de vous diriger vers les sorties. Une carte en gueule à la avant de se jouer. Nous vous attendons.
Mais foutez-les dehors.
Ce n'est qu'un autre.
Attends, je dois finir l'émission. Arrête.
Il en reste un bout, ouais.
Il me reste un petit bout. Je sens que là, c'est limite. J'ai tenu jusque-là.
Vous pensez que je peux faucher ce truc-là? Personne ne dira rien. Là, proxy jeu, là.
Ah, bah, carrément, oui, ça finira la benne, ça.
Ouais. Oh, bah, c'est cool.
Tu veux tous les prendre?
Non, non, ah bah, les autres m'intéressent peu, mais celui-là, ça peut être sympa.
Vous voyez
quoi.
Que je peux partir avec les néons,
Ouais.